ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus ou moins calme.
You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? You talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Ordre Radio en ce mardi 21 avril 2026. Il est 14h pile, oui encore, comme hier et comme demain sans doute. 14h, c'est l'heure de Ciné 100. Les jours ont augmenté. Nous sentons que nous arrivons petit à petit vers les beaux jours et peut-être vers de nouveaux films que l'on pourrait voir en salle. Le cinéma nous manque, je veux dire le bon cinéma, celui qui nous procure des émotions, qui nous donne le sourire ou qui nous fait pleurer, mais qui nous amène quelque part avec douceur ou violence, humour ou sérieux. Un cinéma qu'on aime, quoi. Et aujourd'hui, je suis accompagnée du meilleur comme du pire, du joyeux comme du grognon, du doux comme du rude. Bref, vous l'avez compris, j'ai avec moi les meilleurs. Bonjour Jean-Jacques et bonjour Patrick.
Bonjour Annelise.
Bonjour Annelise.
Vous allez bien?
Qui est qui? Alors voilà, c'est ça qui... On est comme cul et chemise.
On aimerait savoir quand même.
Eh bien écoutez, je vous dirai un jour, peut-être.
Bon, d'accord.
C'est l'un de vous, peut-être,
ouais,
en tout cas.
Ça c'est facile.
Ouais, c'est facile à dire, oui. Bravo.
Bref.
Allez, Jean-Jacques, oui. Quel est le contenu de l'épisode numéro 24 de Ciné 100?
Ah oui. Et oui. Écoutez. Alors, les films devenus avec le temps de grands classiques ont parfois été malmenés à leur début par des critiques plus ou moins acerbes et des opinions bien arrêtées. Ces dernières, souvent négatives, ont par la suite montré leurs limites, voire les lacunes de certains esprits pourtant réputés perspicaces. Bon, par décence, je tirerai leur nom, même si le ridicule ne tue pas.
Oh bon.
Alors, quelques exemples de critiques particulièrement ratées. Alors, en 99 sort Fight Club, thriller de David Fincher, où l'on apprend des critiques de gauche comme de droite, que le film se contente de délayer une mélasse subnietzschéenne, épicée de violences gratuites, et que l'on a toutes les chances de sortir intellectuellement diminué d'une telle épreuve.
Rien que ça. Ça sera
tout. En 94, attention, Forrest Gump de Robert Zemeckis a été perçu comme une fable dont le prince est un benêt et qui tente laborieusement de faire prendre la sottise pour la sagesse la plus profonde.
Allons-y, yak.
Et l'année précédente, un véritable visionnaire, on peut le dire, nous affirmait que Jurassic Park de Steven Spielberg ne nous laissera guère plus de souvenirs qu'un bref passage dans le train fantôme. Il a tout compris, celui-ci.
Je crois qu'ils se sont bien plantés.
Oui, alors on pourrait rajouter Piège de cristal, oui, ou encore Matrix, mais bon, soyons magnanimes, plus personne n'ose aujourd'hui remettre en cause le statut de ces films. À Ciné 100, afin d'éviter de futures moqueries, nous avons décidé de ne parler que des films qui nous ont touchés. Voilà, ces choix relèvent uniquement de nos ressentis et n'obligent que nous, bien entendu. Les films à venir sont récents, ils attendront le verdict des années. Deviendront-ils cultes ou non? Eh bien, dans ce 24e épisode, nous vous livrons donc notre palmarès des films au bel avenir, ou pas.
And the winner is...
Il vincitore est...
Le gagnant est...
Dark Waters est un film de procès américain réalisé par Todd Haynes, sorti en 2019. Il traite de l'histoire vraie de l'avocat Robert Bilott, qui a dénoncé les pratiques toxiques de l'entreprise chimique Dupont, vous savez, Dupont de Nemours. Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un voisin, un ami de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique Dupont, premier employeur de la région. Alors, afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due au rejet toxique de l'usine, Bilott va risquer sa carrière, sa famille et même sa propre vie. Bande annonce.
Votre grand-mère m'a dit que son petit-fils était avocat à Cincinnati, spécialisé dans l'environnement.
Je crois que vous n'avez pas compris. Je suis avocat d'affaires, donc je défends les entreprises de chimie.
Bah, maintenant, vous allez me défendre.
Vous avez perdu 190 vaches.
Vous allez pas me dire que c'est normal, vous aussi. C'est les produits chimiques qui font ça.
Ce produit chimique, ça ferait quoi si on en buvait?
En boire? C'est comme de demander, et si j'avale un pneu, c'est grave?
Imaginons que ce qui fait mourir toutes ces vaches, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet.
Chez Dupont, promettre une vie meilleure grâce à la chimie, ça fait partie de notre ADN.
Dupont a délibérément empoisonné plus de 70 000 citoyens pendant 40 ans. Vous saviez, pourtant vous n'avez rien fait.
Tu veux prendre tout ce que tu sais et utiliser ça contre le géant américain de l'industrie chimique. Donc t'es un informateur, c'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai?
Si. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir et ils n'hésiteront pas à les utiliser contre vous. Je le sais, j'ai été dans leur camp. Ils veulent que tu me dises d'arrêter. L'État est captif de Dupont. Le système est truqué. Ils veulent nous faire croire qu'ils nous protègent.
Tout au long de ce film d'enquête qui dérive lentement vers, au fil du temps qui passe et qui use vers une sorte de quête existentielle mélancolique, on retrouve la patte de Ted Todd Haynes qui transforme les mécanismes convenus de la découverte de l'horreur capitaliste et du compas pas gagné d'avance. Il n'y aura pas vraiment de happy end ici, de David contre Goliath, en une sombre et calme élégie à la résilience humaine. Oui, 99% des êtres vivants sur Terre sont désormais intoxiqués au C8. Mais sa capacité de résistance, son refus d'abandonner un juste combat, constitue l'honneur de cette humanité empoisonnée par l'attrait de l'argent et la démission des politiques.
Alors c'est toujours un sujet polémique, hein, puisque l'Amérique de Trump continue à déréguler tout à toute allure, et puisque le téflon continue à être produit et utilisé quotidiennement. Mark Ruffalo est, comme toujours, très précis et très contenu dans une interprétation à rebours de celle qu'on attendrait pour un personnage de héros du peuple américain. Mais le scénario est inspiré de l'article de Nathaniel Rich, paru dans le New York Times Magazine. Et c'est Mark Ruffalo lui-même et Participant Media, le prod, qui développe le projet et le propose au réalisateur Todd Haynes en 2018. Ruffalo est également producteur. Il est entouré d'Anne Hathaway et de Tim Robbins, figurez-vous.
Au-delà de sa réussite artistique, Dark Waters nous interpelle aussi, bien entendu, par son actualité, sa pertinence par rapport aux angoisses environnementales qui envahissent chaque jour plus encore notre existence. Le choix d'une image sombre, bleutée, que l'on peut juger initialement convenue pour un exercice de flashback, s'avère au fur et à mesure que le film devient... David, son pessimisme combatif comme la meilleure manière de figurer à l'écran la vision pré-apocalyptique qui conclut le film d'une Amérique, on va dire même d'une planète, des exclus dont les vies ne valent plus rien aux yeux des puissants. Un excellent film à revoir si l'occasion se présente.
Je plus sois totalement.
Oui.
Alors, ça c'est pour les films. Alors pour nos illustrations musicales traditionnelles, aujourd'hui ces sélections musicales vont nous permettre de retrouver des chanteurs et des chanteuses qui sont aussi des acteurs et des actrices de cinéma.
Ah bien.
On en fera même peut-être un épisode à venir, je pense.
C'est une bonne idée.
Voilà. Et pour commencer, on va retrouver Arletty et Michel Simon qui en 1939. Dans le film « Circonstances atténuantes » de Jean Boyer, chanté comme de bien entendu avec l'ensemble des acteurs du film.
Elle était jeune et belle, comme de bien entendu. Il eut béguin pour elle, comme de bien entendu. Elle était demoiselle, comme de bien entendu. Il se débrouilla pour qu'elle ne le soit plus. Comme de bien entendu, ils se mirent en ménage, comme de bien entendu, elle avait du courage, comme de bien entendu, il était au chômage, comme de bien entendu, ça lui faisait déjà un gentil petit revenu. Comme de bien entendu,
voulant faire une folie, comme de bien entendu, il offrit à sa mille, comme de bien entendu, un billet de la loterie, comme de bien entendu, ça ne lui fit jamais que 100 balles de perdu, comme de bien entendu.
Mais il se mit à boire, comme de bien entendu. Elle ne fit pas d'histoire, comme de bien entendu. Mais pour pas être une poire, comme de bien entendu. Elle se régala en le faisant cocu, comme de bien entendu.
Il la trouva mauvaise, comme de bien entendu. Mais elle gagnait du pèse, comme de bien entendu. au lieu de ramener sa presse. Comme t'as bien entendu, il se contente d'écouter le pied au cul. Comme t'as bien entendu.
Et depuis on raconte, comme de bien entendu, qu'il y trouve son compte, comme de bien entendu. Et quand chez lui on monte, comme de bien entendu, il s'en va faire un petit tour au PMU,
comme de bien entendu.
Comme de bien entendu.
Comme de bien entendu. Comme de bien entendu. Comme de bien entendu.
Ah, c'est agréable. Hein.
Ah, c'était une belle époque de la chanson française, quand même.
Bon, changement de registre.
Oui, allons-y.
Je ne me laisserai plus faire.
Bon, moi non plus.
Patrick, je vous le dis de suite. C'est un téléfilm écrit et réalisé par Gustave Kervern et diffusé pour la première fois en novembre 2024 sur Arte.
Alors, qu'il était son unique soutien, le fils de Rosalie meurt. Anticipant, faute de moyens, une expulsion de son EHPAD, la septuagénaire rebelle à la vie cabossée décide de se lancer dans une cavale vengeresse contre tous ceux qui lui ont fait du mal. Au cours de sa folle épopée, elle est rejointe par Linda, une douce femme de ménage avec qui elle a tissé des liens à la maison de retraite. N'ayant pas plus à perdre que Rosalie, Linda décide à son tour d'entrer en guerre contre ceux qui l'ont humiliée. Et bientôt, le duo est mollement traqué par un binôme de flics, un homme et une femme à la dérive.
Le réalisateur signe avec son film sa première œuvre sans son habituel acolyte, Denoît de Lépine. Et cette histoire de vengeance tragicomique portée par Yolande Moreau et Laure Calamy a obtenu le prix du meilleur réalisateur, la meilleure réalisation au Festival de la fiction de La Rochelle en 2024.
Oui, à peu près. Bon, alors, vous avez parlé, Anne-Lise,
oui.
J'ai cru comprendre dans votre phrase, de Yolande Moreau et de Laure Calamy.
Oui.
Oui.
Yolande Moreau nous livre une prestation assez bouleversante, il faut le dire. La distribution est de haut vol. Hein. Je vais vous citer quelques-uns, pas tous. Anna Mouglalis, Raphaël Quenard, l'excellent Jonathan Cohen, Marie Gillin, sans parler des seconds rôles ô combien importants que sont les anciens des chiens, Philippe Duquesne, Olivier Saladin et Olivier Brochet. Et il y en a d'autres encore, je vous les cite. Il y a même le président du club de foot de Lens, vous savez, Gervais
Martel, oui.
Martel, qui joue un membre de un patient qui est dans la maison de retraite sur un siège roulant et qui engueule tout le monde. Quoi. C'est assez marrant. Donc, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, voici une scène réunissant Marie Gillin, Anna Mouglalis, Raphaël Quenard et Jonathan Cohen.
Justine ?
Oui, monsieur Cognac.
Je voudrais passer un petit week-end original.
Je viens d'avoir le central.
Ouais.
Vous avez un bracelet électronique, il paraît ?
Ouais, je m'assure, je l'ai là. Enfin, je sais pas où je l'ai foutu. Attends, si, c'est
ah
quoi
oui,
qu'il a dans le sac ?
C'est
lui qui l'a, parce que moi j'ai la tête en l'air, donc je perds tout. Voilà, il est là.
Il est coupé, là ?
Oui, il est coupé parce que ça me compresse. En fait, moi j'ai des gros problèmes au mollet avec le chauffage par le sol, ça gonfle.
Bon, on verra ça plus tard.
C'est pas galère.
En attendant, Madame Raffray est en cavale et elle est armée.
Quoi ? Elle est armée ? Voilà, voilà, les gens, ils sont... Ça, le monde est devenu totalement fou, là. Vous vous rendez compte, hein ? Oh, putain, Jésus.
Joseph,
les rois mages, tout ça, c'est quoi, ça ? Non, mais je vous le dis, hein, là, le... On n'est plus en sécurité, nulle part, là.
Oui, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure, Anne-Lise, parce qu'on a commencé par une autre bande-annonce.
Il y a eu un petit coup de fouillage.
C'est pas grave.
On a quand même compris l'esprit de ce film-là.
Oui, oui, oui. Et l'extrait nous aide beaucoup, d'ailleurs, à le comprendre.
Oui.
C'est une manière détonnante pour Gustave Kervern d'aborder le sujet sensible de la crise dans les établissements pour personnes âgées, dont la hausse des charges et la baisse de la qualité d'accueil des résidents font polémique depuis plusieurs années.
Et ce n'est pas tout.
Non.
Satire de la connerie humaine qui dénonce le fonctionnement de la justice, la pauvreté chez les seniors ou le sexisme, je ne me laisserai plus faire, ne délaisse jamais le ton de la comédie, sans pour autant manquer de sérieux ou de délicatesse, notamment sur d'autres sujets dramatiques. Tiens, voilà ce que disait le réalisateur dans les notes de production.
Il s'agit d'une multitude de petits abus de pouvoir, mais plus on progresse, plus on s'enfonce dans la gravité. Tout le défi consistait à traiter avec de l'humour des thèmes aussi terribles que le viol et l'inceste. Je voulais que le film donne de l'espoir, mais qu'il embarque tout le monde dans la croisade des deux héroïnes.
« Je ne me laisserai plus faire » est une fable grinçante, une comédie généreuse pour soigner des dignités trop souvent piétinées. Dans la catégorie des chanteurs-acteurs, Alain Souchon aurait fait une courte carrière, mais remarquée dans le cinéma. De quoi s'asseoir par terre ?
Bah oui, Pimpon.
Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Le temps d'un jean et d'un film à la télé, on se retrouve à 28 balais, avec dans le cœur plus rien pour s'émouvoir, alors pourquoi pas s'asseoir. Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Depuis le temps qu'on est sur pilote automatique, qu'on fait pas nos paroles et pas notre musique, on a le vertige sur nos grandes jambes de bazar, alors pourquoi pas s'asseoir. Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. J'appuie sur la gâchette accélérateur, y a que des ennemis dans mon rétroviseur. Au-dessus de 180, je perds la mémoire, alors pourquoi pas s'asseoir. Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. La nuit je dors debout dans un RER, dans mon téléphone tu sais j'entends la mer. Y'a pas le soleil dans ma télé blanche et noire, alors pourquoi pas s'asseoir. Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça.
Très jolie version.
Tout à fait. Au cinéma, il y a un pari risqué qui souvent, des fois, déçoit et parfois fonctionne. Ce sont les suites qui sortent très longtemps après le premier film, tels que Top Gun et Mad Max, par exemple. Oui. Et puis, il y a Blade Runner, sorti en 82, signé Ridley Scott. Il est devenu avec le temps un film culte, presque philosophique. En 2017, Denis Villeneuve fait le pari fou d'en faire une suite.
Aïe, aïe, aïe.
C'est ainsi que sort Blade Runner 2049.
Et alors ?
À sa sortie, la méfiance est de mise, bien sûr. Suite inutile, relecture opportuniste. Nous dirons que le pari est réussi.
Et tout à fait, puisqu'en effet, dès les premières images, le film nous replonge dans cet univers si particulier, un futur sombre, pluvieux, presque étouffant. La réalisation de Denis Villeneuve ne cherche jamais à moderniser à outrance. Au contraire, elle respecte profondément l'ADN du premier film. On retrouve, n'est-ce pas, cette lenteur contemplative, ces silences pesants, cette lumière néon qui découpe les visages et les âmes. Oui, c'est une œuvre qui prend son temps et c'est précisément ce qui fait sa force. Hein.
Mais là où Blade Runner 2049 réussit pleinement son pari, c'est dans sa capacité à prolonger les thèmes du premier film sans les trahir. La question de l'humanité, de la mémoire, de l'identité, tout est là. Le personnage principal K, interprété par un Ryan Gosling tout en retenue, fascine. Il incarne parfaitement cette quête existentielle. Comme Rick Deckard avant lui, il doute, il cherche, il confronte à ce qui le fait lui, ou non, un être humain. Bande-annonce.
Toutes nos civilisations,
se construit sur le dos de travailleurs corvéables à merci. Je ne peux en produire qu'en quantité limitée.
Voilà ce que nous faisons ici. Nous maintenons l'ordre. Le monde repose sur un mur de séparation entre deux classes d'êtres. Si nous disons à l'une d'elles que ce mur n'existe pas, nous récoltons la guerre.
Tu es flic. J'ai occupé ton poste dans le temps. Et j'étais doué.
Je sais.
Qu'est-ce que tu veux ?
Vous posez deux ou trois questions.
La clé de l'avenir est enfin révélée. Amenez-le-moi.
Je te le dis depuis toujours. Tu es exceptionnel. Ton histoire n'est pas terminée. Il reste une page.
Il y a cette ambiance presque hypnotique. La bande originale, dans la lignée de Vangelis, enveloppe le film d'une mélancolie froide. Chaque plan est travaillé comme une peinture et on est loin des blockbusters brouillants et frénétiques. Ici, le spectacle est visuel, sensoriel, presque méditatif. Ce qui impressionne aussi, c'est le respect du mythe. Le film ne se contente pas de faire des clins d'œil au passé. Il construit une véritable continuité.
Et alors avec ça, le retour de certains personnages n'est jamais gratuit.
Ben non, jamais, monsieur.
Mais jamais.
Il s'inscrit dans une logique narrative et émotionnelle forte, n'est-ce pas ? On sent que les créateurs aiment profondément l'œuvre originale et ça se voit. Alors oui, Blade Runner 2049 est une suite réussie. Mieux encore, c'est une vraie... Une suite rare, oui, qui comprend ce qui faisait la magie du premier film et qui parvient à la prolonger sans la dénaturer. C'est un film exigeant, parfois déroutant, mais d'une cohérence et d'une beauté remarquables.
On retrouve certaines références au film précédent, mais toujours en finesse, et certains acteurs, puisque Harrison Ford reprend son rôle durant quelques minutes. Mais il n'y a pas que lui, en effet. En somme, une expérience de cinéma à part, une œuvre qui ne crie pas, mais qui résonne longtemps après le générique.
Comme vous dites.
Toujours dans la thématique des chanteurs-acteurs chanteuses-actrices, après Arletty et Souchon, voici Bradley Cooper et Lady Gaga qui le chantent Shallow, extrait du film A Star is Born, sorti en 2018.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Hard keeping it so hardcore. I'm falling in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end.
Shallow, in the shallow, shallow, la la low.
combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, 2-3 fois dans l'année. Moi, je trouve que c'est dingue.
Ce qui est dingue aussi, c'est la, vous ne l'avez pas entendu, chers auditeurs et auditrices, mais la version chantée d'Anneliese de Chalot.
Et de vous aussi, bon, Jean-Jacques.
Oui, bien sûr.
Oui, c'est un duo absolument. Bon,
je crois que c'est la même chose que Lady Gaga, et, mais vraiment, voilà. C'était remarquable.
Parfait.
C'était Lady Gogo et Bradley Cooper.
Patrick, restez avec nous.
Jean-Michel,
est-ce que vous
près.
Pouvez aller me chercher un canapé, s'il vous plaît?
Un canapé, bien sûr. Vous avez une télé?
Oui.
Et est-ce qu'on peut faire des films sur la télé en regardant le canapé?
Eh bien, vous savez quoi? Ça va faire l'objet de la prochaine séquence.
Dites-moi pas que c'est
on
pas
on s'assoit
vrai.
Sur un canapé, on regarde la télé pendant
c'est
la semaine
incroyable.
À venir.
Incroyable.
Et on choisit trois films. Chacun en a choisi
trois
un.
Trois films Anne-Lise. Chacun. Moi, j'ai choisi trois films.
Anne-Lise.
Eh bien, moi, j'en ai un.
Moi aussi.
C'est... Bon, alors, il y en avait pas mal cette semaine,
oui,
pour une fois.
Il y avait du
choix.
Il y a, oui.
Et
yeah,
du coup,
c'est
j'ai
pour
pris.
La semaine à venir,
oui, j'ai pris. Eh ben, j'ai pris une comédie qui jouera sur Cité.
À
21h10.
C'est un vrai voyage.
Mais écoutez, c'est incroyable. Le 26.
Le 26 quoi?
Le 26
c'est donc
avril.
Dimanche.
Donc dimanche,
avril,
tout à fait. Ça s'appelle Marie à tout prix de Bobby
oh,
et Peter Farrelly.
Ah ben on en a parlé la semaine dernière de Farrelly, on avait parlé d'un de ses films qui était...
De leur film, oui,
oui
c'est les frères.
Qu'il a non mais là il était tout seul.
C'était Peter?
Oui, c'était Peter.
Il me
oui.
semble.
Oui.
Je ne sais plus quel film. Oui.
C'était un film.
On va savoir
ouais, voilà.
revenir ou pas.
Tout à fait.
Alors là c'est une comédie.
Eh bien là c'est une comédie, c'est Ted qui est architecte timide et maladroit et il n'a jamais oublié Marie, la jeune femme dont il était éperdument amoureux au lycée et avec qui il avait passé sa soirée de bal de fin d'année et qui avait été catastrophique, voire un vrai cauchemar. Eh bien, pour la retrouver, il emploie un détective privé, Ted, qui, lui, va aussi tomber amoureux de Marie. Va rentrer dans des quiproquos, des non-dits, et c'est très, 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 très drôle, et c'est très bien joué. Donc, voilà,
c'est très américain en même temps.
C'est aussi très américain, mais moi...
C'est un peu romantique,
non ? Ouais, ça...
C'est chiant, quoi.
Non, pas du tout.
Bon, d'accord.
C'est
non,
vous qui êtes chiant,
le
un
petit
peu.
Américain dans
moi
ce
aussi.
Qu'il a de meilleur.
Et c'est...
Une nuit blanche à Seattle, par exemple.
Oh, non, arrêtez,
tout à fait.
Arrêtez.
Eh bien, là, on est un peu là-dessus. On est sur un film, une comédie romantique qui est très drôle et qui vraiment se laisse regarder avec beaucoup de plaisir. Et c'est pour passer un bon moment cette semaine sur notre petit canapé à manger des pop-corns.
Par exemple.
D'accord. Alors après,
voulez-vous que j'y vais ?
Allez-y.
Alors j'y vais. Moi, j'ai trois choix. J'ai le 1, le 2 ou le 3.
Le 2.
Alors, je vais prendre le 1 parce que c'est le film qui est le moins connu des trois.
D'accord.
Alors, c'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Tom Tykwer.
Qui croire ?
Tykwer.
Ah, Tykwer.
T-Y-K-W-E-R.
D'accord.
En 2006.
Un réalisateur américain ?
Américain, oui. Mais c'est un film français, produit français.
Très bien.
Avec Ben Whishaw.
Français.
Dustin Hoffman.
Français.
Alan Rickman, figurez-vous.
Français. Il n'y a que des Français, quoi.
Oui, il n'y a que des Français.
Ouais.
Alors, figurez-vous que le titre du film... C'est aussi le titre d'un roman magnifique qui s'appelle Le Parfum.
Ah, de Susskind.
Bien sûr.
Oui,
extraordinaire
oui.
roman.
Ah oui, extraordinaire.
Très, très chouette roman.
Ah oui.
Eh bien,
oui,
figurez-vous que le film est tout à fait à son avantage dans l'adaptation qu'il a
c'est
été faite.
C'est bien
fait.
Vrai.
Jean-Baptiste Grenouille naît en 1744.
Oui.
Dès ses premières heures, il connaît un destin aussi fascinant qu'effrayant. C'est un enfant solitaire et malade. Il devient un jeune homme à part grâce à un don unique. Son odorat. Grenouille n'a pas d'autre passion que celle des odeurs et à chaque seconde de sa vie est guidé par ce sens surdéveloppé. Survivant misérablement, il parvient à se faire embaucher comme apprenti chez les maîtres parfumeurs de la capitale. Et là, il découvre les techniques et les secrets de la fabrication des parfums. Son don lui permet de composer quelques chefs-d'œuvre olfactifs, mais son but ultime devient rapidement la mise au point de la fragrance idéale. Et je ne vous dis pas...
Ça finit
de
pas
quoi
bien,
il
pas
retourne.
Très, très bien.
Mais c'est un film absolument inouï, mais tiré d'un roman que j'avais absolument adoré. Donc c'est pour ça que j'ai préféré parler de celui-là.
Vous avez raison.
Parce que l'Odyssée
non,
de l'espace
c'est bon.
Et Joker,
oui,
non, on les connaît.
On les connaît. Bon, alors rappelez-nous.
J'en ai quand même parlé.
Rappelez-nous.
Alors ça s'appelle Le Parfum, l'histoire d'un meurtrier. C'est vendredi 24 à 21h sur Canal Plus Grand Écran, figurez-vous.
Très bien.
21h, quand...
21h.
D'accord, c'est noté. Alors maintenant, moi, mon choix, le 20, ce sera lundi.
Lundi.
27 avril à 22h20.
Ah là, c'est
sur
tard.
Sur Canal Plus Grand Écran. Alceste à bicyclette, comédie de 2012, signée Philippe Le Gay, avec Fabrice Luchini et Lambert Wilson.
Et Lambert Wilson, bien sûr.
Alors, c'est l'histoire de Fabrice Luchini qui est un acteur au sommet de sa gloire. Quoi. Et alors, il décide de quitter le monde du spectacle. Voilà. Il est fatigué d'un métier où tout le monde trahit tout le monde. Et alors, il va vivre en ermite dans une maison délabrée sur l'île de Ré.
Sur l'île de Ré, oui.
Et trois ans plus tard, débarque sur l'île Gauthier Valence, qui est un acteur de télévision immensément connu, et il vient retrouver Fabrice Luchini pour lui proposer de jouer le misanthrope de Molière.
Oui.
Voilà. Serge, n'est-il pas devenu une incarnation, en fait, du personnage d'Alceste, avec son repli en ermite? Mais Luchini, alias Serge, va refuser tout net et confirma qu'il ne viendra jamais sur scène. Voilà. Alors, c'est une comédie,
oui,
entre une star du théâtre connue, que joue Fabrice Luchini, et la vedette d'une série télé, Lambert Wilson. Voilà,
ah,
télé,
ouais, ah oui, oui.
Vous voyez, alors, évidemment, c'est un film qu'il faut aller voir si on aime Luchini.
Si on aime Lambert Wilson aussi.
Parce que Wilson aussi.
Mais les deux sont très, très, très...
Et je vous rappellerai que c'est lundi 27 avril à 22h20 sur Canal Plus grand écran. Alceste à bicyclette. Autrement dit, Alceste à bicyclette. Ça, c'est pour le bêtisier. Non, parce que j'en ai pas beaucoup,
oui,
alors je...
Bah, bon, ah oui, bah, écoutez, bah, n'hésitez pas, demandez-moi, hein, moi je vais essayer d'en faire...
Pour démonter tout de suite, et là je vais pas me faire des amis, pour démonter tout de suite l'hypothèse, 1917, sorti en 2019, n'a pas été filmé en un seul plan séquence.
Et non.
Mais en plusieurs longues prises qui ont ensuite été montées ensemble pour donner l'impression d'une seule et unique
scène. C'est très, très bien fait.
C'est très, très, très bien fait.
Ah oui, tout à fait.
Le fait d'utiliser ce dispositif pour un film tout entier était une expérience nouvelle pour le réalisateur Sam Mendes.
Le scénario, inspiré en partie par un récit raconté à Mendes par son grand-père paternel, raconte l'histoire de deux jeunes soldats britanniques, les caporaux suppléants Schofield et Black, qui reçoivent l'ordre de délivrer un message annulant une attaque vouée à l'échec peu après la retraite allemande sur la ligne Hindenburg pendant l'opération Alberich en 1917. Ce message est particulièrement important pour l'un des deux jeunes soldats dont le frère doit participer à l'attaque imminente. Bande-annonce.
J'avais espoir que cette journée serait une bonne journée. L'espoir, c'est très dangereux.
Vous avez un frère dans le 2e bataillon?
Oui, monsieur.
Ils vont tomber dans une embuscade. Vos ordres sont de porter un message qui annule l'assaut prévu demain matin. Si vous échouez, ce sera un massacre.
Nos ordres sont de traverser ici.
Ça, c'est la ligne de front allemande.
Ça, c'est le feu !
Personne ne va sauver ton frère si on ne prend pas le temps de réfléchir.
Ça ne peut se terminer que d'une seule façon. En se battant jusqu'au dernier. I'm going
to see my father. On peut pas rester ici ! Allez, viens !
Tu suicides de passer par là ! Es-tu complètement cinglé ?
Si vous n'arrivez pas à temps, nous perdrons 1600 hommes.
Alors évidemment, c'est difficile de... Oui, pardon. Vous voulez parler ? Oui.
Non,
j'allais dire, c'est difficile de traduire à la radio un plan séquence unique.
Ah oui, c'est difficile.
Ah oui, c'est...
Mais surtout que c'est pas un plan
séquence unique. C'est visuel.
Mais peut-être que...
Mais alors, puisqu'il y a plusieurs moments où la caméra tourne autour des acteurs à 360 degrés, bah, si vous avez vu le film, vous vous souvenez de quoi il est question.
Oui, tout à fait.
Il était impossible de cacher des lumières artificielles dans le décor.
Bah, bien
donc,
sûr.
Comment l'équipe devait
donc, l'équipe devait donc se fier seulement à la lumière naturelle. Et pour s'assurer que toutes les scènes soient identiques, ils ne pouvaient filmer que lorsque le ciel était nuageux.
Ça a duré combien de temps ?
Ça a duré longtemps.
Ah
cela
oui,
voulait
ça
dire
être
que
incroyable.
De longs moments passés à attendre que le soleil s'en aille. Le pari de Sam Mendes, c'est de nous faire vivre la guerre, nous faire entendre le bruit de l'ennemi, la perte de sens, la peur, le réconfort d'une main, le désarroi et la folie courageuse. Et il est vrai que c'est bien la première fois que l'on peut vivre la guerre de cette manière. Avec ce seul point de vue proposé par Mendes, on est littéralement emmené dans cette mission quasi-suicide que doivent réussir nos deux héros. On s'essouffle avec eux, on cherche avec eux, on a peur avec eux. Nous aussi, simples spectateurs, nous avons du mal à savoir qui est l'ennemi et où il se terre. D'ailleurs, l'ennemi qu'on ne voit quasiment pas, mais qui nous entoure et qui rôde telle la grande faucheuse.
Et alors, paradoxalement, oui. Ce 1917 brille par l'omniprésence du silence.
Absolument.
Et du calme. Enfin, tout relatif.
Relatif. Oui.
Les scènes d'affrontement sont courtes, nerveuses, hyper concentrées, bordéliques et bruyantes et sont suivies de longs moments de solitude où nos héros récupèrent pour ne pas mourir. Ces quelques moments de réconfort et de solitude ponctuent souvent des scènes d'une intensité folle, permettant ainsi de rythmer le film tout en évitant de nous en sortir. Mendes a tenu à souligner les longs moments où les soldats attendent le combat et la mort, ces moments où l'inconnu prime et où on ne sait même plus pourquoi on est là.
Alors, dans ce film, quand même, qui dure effectivement 2 heures, oui. Il est difficile de retenir un moment.
Oui, d'accord.
C'est un bloc de 2 heures qui commence dans une prairie pour y finir dans une prairie. Mais malgré cette intensité folle dans ce faux calme permanent, certains moments sont d'une beauté absolue. J'en veux pour preuve, souvenez-vous la séquence où l'un des soldats entre dans une ville avec une ambiance orangée, avec les fumigènes. C'est un passage surréaliste et magique qui est pour moi un des plus beaux moments du film.
Oui,
de la même chose, la rencontre avec la jeune femme qui suivra est comme une parenthèse dans le chaos, c'est magique tout simplement. Alors oui, ce n'est pas un film de guerre conventionnel, mais il porte une sorte de souffle épique.
Autre guerre, celle du Vietnam, filmée par Francis Ford Coppola. Oula.
Oui.
Francis Ford Coppola.
C'est le même.
Et mise en musique par les Doors, dont voici un extrait de The Hand.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So limitless and free. Of some stranger's hand in a desperate land.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape ?
Eh bien oui, sur 91.3 O2 Radio, bien entendu.
Alors il y a dans le cinéma français des films sans prétention, qui pourtant, mine de rien, nous parlent de l'essentiel, l'homme avec un grand H et l'humanisme. Il en est ainsi de la filmographie de Bruno Podalydès, sorti le 11 avril 2024, pendant les rencontres du cinéma de Gérard May, La Petite Vadrouille est son 11e film. Le cinéaste y a son meilleur, celui de Liberté Oléron, rappelez-vous, oui, film de 2004. Incroyable. Avec humour et poésie portés par d'excellents acteurs, La Petite Vadrouille est une balade au fil de l'eau qui brasse quiproquo, tendresse, bienveillance et amitié.
Industriel fortuné, Franck annonce à sa collaboratrice préférée, Justine, qu'il est prêt à payer à une petite fortune pour une croisière romantique avec la femme qu'il veut séduire. Il propose une avance de 14 000 euros. Sa proposition tombe à pic. Sandrine est fauchée comme les bilets. Son mari, Albin et ses copains aussi. Ensemble, ils montent donc une arnaque. Proposer au séducteur une croisière romantique bidon sur les plus beaux canaux hexagonaux. Mais le jour J, devant la pénichette sur laquelle va se dérouler la croisière, Franck annonce à Justine qu'elle est la femme dont il est amoureux.
Entre les dérobades de Justine pour échapper aux avances de Franck, les trouvailles de ses copains, tous des bras cassés pour rendre attractif le passage de l'écluse, et les rodomontades du prétendu capitaine du bateau, la croisière va pas être triste, hein, c'est pas la croisière sérieuse, mais pas loin. Bande annonce.
Justine ?
Oui, monsieur Cognac.
Je voudrais passer un petit week-end original. Je vous confie une petite somme d'argent et vous m'arrangez ça.
D'accord.
Le principe, c'est de s'en garder au moins la moitié.
Il faut que j'organise un week-end de rêve.
On va tous se refaire.
Jocelyn, capitaine, Albin, commercial, personne ne se connaît.
On dirait qu'on prépare un hold-up.
Mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ça.
Bonjour Franck.
Je suis votre capitaine et vous dites mon capitaine.
Il faut rester élégant, raffiné. J'ai mon poste en jeu, donc il faut que tout soit de très très grande qualité.
À chaque écluse, il faut payer 50 euros.
Justine, excuse-moi, on est dans une panade inouïe.
Demande, mais pour croire encore à cette histoire. Avec ce vin midi qui était de la super piquette.
Je vais pas faire le même mec à chaque écluse quand même.
Tu te déguiseras.
Chacun respecte son engagement.
C'est une catastrophe, hein, permets-moi de te le dire.
Mais c'est derrière toute.
Mais pourquoi vous gueulez ça puisque c'est vous qui manœuvrez le moteur ?
La Petite Vadrouille est un projet que Bruno Podalydès avait en tête depuis 2003, au moment où, justement, il a commencé à faire des petites croisières fluviales en famille. Il disait lui-même...
Dans ce film, il y a eu le plaisir d'aller pied au plancher, de ne surtout pas s'embêter avec la fameuse justesse, la vraisemblance.
Justesse.
Justesse, oui. C'était drôle d'y aller à fond, en appuyant sur les accents, avec tous ces trucs très enfantins. J'avais envie que le film soit gay.
À l'heure des grosses machines américaines qui multiplient gags et effets spectaculaires et un train d'enfer, ça fait un bien fou de pouvoir prendre le temps de rire aux blagues d'une comédie potache qui va à un train de sénateur 9 km/h. Et ce, sans qu'on s'ennuie un seul instant.
Je confirme.
Ah oui.
Et la réussite du film vient aussi de sa distribution. Aux acteurs qui l'accompagnent depuis ses premiers films, son frère Denis bien sûr, Isabelle Candelier, Jean-Noël Brouté, Podalydès a adjoint Sandrine Kiberlin et un tout nouveau venu sur son plateau, tiens, un petit jeune qui démarre, Daniel Auteuil, qui est hilarant et épatant dans le rôle de l'industriel. Alors, c'est sans conteste une comédie française réjouissante. Sandrine Kiberlin, qui est également une chanteuse, la preuve avec sa chanson « La chanteuse ».
Ça y est, c'est fait, j'ai un micro. Sur scène, je bois de l'eau, c'est pour la voix. Je fais même des gammes, des vocalises. Je pars en tournée, je fais mes valises. Et oui, c'est vrai, ça prend du temps. C'est l'écriture, c'est très prenant. Je fais des brouillons et des ratures. Et puis, j'ai travaillé l'allure. Je suis chanteuse et je m'y crois. Faut que je déjeune avec Carla et Vanessa pour parler de ça. J'ai des musiciens avec moi. Ensemble on fait wah wah chou wah. On est toujours bien assortis. On a bossé pour d'harmonie. Ils font les garçons, moi la fille. C'est important d'être précis. J'ai bien retenu toutes mes paroles. Vous voyez pas quand je m'affole. Je suis chanteuse et je m'y crois. Faut que je déjeune avec Carla et Vanessa pour parler de ça. J'ai travaillé quelques mouvements, je bouge mon corps instinctivement. Bien sûr, tout le monde n'a pas ce talent. Moi, j'y peux rien, j'ai ça dans le sang. Et je commence au bon endroit. Je tiens la note comme il se doit. Do, ré, mi, fa, sol. Et puis là, ça impressionne quand je fais ça. Je suis chanteuse et je m'y crois. Faut que je déjeune avec Carla et Vanessa. Je suis debout ou bien assise, je peux danser, on sait jamais. Et puis je prends bien la lumière, vous trouvez pas que j'ai des faux airs de Mylène et de Madonna. Je sais, c'est prétentieux de dire ça, mais faut avouer que c'est frappant. La ressemblance, c'est évident. Je suis chanteuse. Vanessa, pour parler de ça. Je suis chanteuse et je m'y crois. Faut que je déjeune avec Carla et Vanessa.
Bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça !
Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Nous sommes mardi. Demain, c'est mercredi.
Toujours.
Et le mercredi qui suit le mardi, c'est toujours le jour de sortie des films au cinéma.
Vous êtes dépressif ?
Nous allons vous parler aujourd'hui des films qui sortent demain. Oui, voilà. Dans la chronique qui s'appelle... Les sorties de demain.
Mais avant, vous avez envie aux gens d'y aller, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est
remarquable. Mais non, mais on plaisante, mais c'est vrai, c'est les sorties de demain. Allez, alors, on y va.
Bon, qu'est-ce que vous avez...
Moi, j'ai trois films, moi, proposés.
Bon, alors, Anne-Lise.
Eh bien, moi, j'en ai un. Oh. En fait, c'est plus un documentaire qu'un film. Ça s'appelle Alice au pays des colons.
Des colons, vous voulez dire l'intestin, non ?
Non, des colons à Bethléem.
Des colons, oh oui. Ah, Alice oui. Kisaya est une jeune femme de 30 ans. Elle est originaire de Bethléem. D'accord. Et possède, fait rare, la nationalité israélienne. Eh bien, cela n'a pourtant pas empêché les colons israéliens de s'emparer de son terrain, là où se dressait la maison familiale et le restaurant de ses parents. Eh bien, chaque jour, Alice revient pour défier cette oppression et essayer de rendre justice. Et puis, on suit aussi Alan Nasr, un jeune de 27 ans qui habite à Madama, qui est une ville encerclée aussi par les colons israéliens. Et ce jeune homme de 27 ans se bat avec ses copains pour, contre l'oppresseur et refuse de fuir. Et donc, on suit ces deux personnes, parce que ce n'est pas du tout des personnages, on est vraiment sur deux personnes qui existent et qui se battent pour faire valoir leurs droits. On les suit dans leur quotidien et le film éclaire aussi sur deux trajectoires qui se croisent, qui ont deux formes de courage et une machine contre l'occupation qui peut être aussi brutale et aussi violente, mais pour leur survie. Et je crois que c'est un film qui est un documentaire qui est important d'aller voir, qui est très fort, en tout cas qui a l'air très fort. Et c'est bien dans les temps qui arrivent. Alors, c'est pas drôle, mais en tout cas, il y a une vraie forme de justice aussi.
Oui, oui, et puis d'appel à la résistance.
Et d'appel à la résistance, tout à fait.
Très bien.
Oui, j'ai vu la proposition qui était faite et je me suis dit, Anne-Lise va la prendre, donc je vais pas la prendre. Moi, je vais vous parler d'un documentaire.
Oui, moi, j'ai pas droit à la parole. Non, allez-y, c'est pas grave. Allez-y.
Bon, alors, allez-y. Bon,
non, je vous en prie.
Non, on va parler du même, de toute façon. Non, donc, non.
Bon, alors...
Honneur aux anciens, parlez de votre documentaire.
C'est à vous, rappelez-vous. Allez-y.
Alors, moi, je ne vais pas parler d'un documentaire.
Non.
Je vais parler d'un film qui est plus qu'un film,
oui.
Qui est une œuvre d'art en mouvement.
Oula, vous me faites peur.
Oui. Chimène, fille du comte Dom Gomez et Rodrigue dit le Cid, s'aiment passionnément.
Oui.
Mais une grave querelle oppose leur famille. Rodrigue doit alors venger l'honneur de son père au cours d'un duel inévitable avec le comte. Un combat qui bouleversera son histoire d'amour avec Chimène.
Oui, c'est Tintin en combo,
alors,
c'est ça?
Ça s'appelle... Oui, tout à fait. Ça s'appelle le Cid, bien sûr, et non pas... Alors, oui. Sur l'affiche, c'est le Cid de la Comédie Française. Moi, je croyais que c'était de Corneille. Mais bon, après...
chacun ses références, on va dire.
C'est plus porteur de dire
donc,
la Comédie Française.
Donc, c'est mis en image par Dominique Thiel et mis en plateau par Denis Podalydès,
oui.
Avec, évidemment, le sublissime Benjamin Laverne, qui avait déjà été un scapin de folie à la Comédie Française il y a quelques années. Donc, après ses mises en scène de Cyrano de Bergerac, Lucrèce Borgia et le Furbeau de Scapin, Denis Podalydès, le frère de l'autre, s'empare du Cid, pièce emblématique du théâtre classique français qui dépeint une galerie de personnages tiraillés entre amour et honneur. Alors, ça passe, donc c'est visible dimanche à 15h dans tous les cinémas de Bordeaux.
Très bien.
C'est visible, vraiment. Alors, il faut réserver, mais c'est visible dans tous les cinémas
d'accord.
de Bordeaux.
D'accord. OK.
Donc, que ce soit les UGC, les Mégarama.
Très bien, on ne va pas citer parce qu'on n'a pas le droit. Donc,
on peut citer l'Utopia, comme ça, on a cité les trois.
Les trois, voilà. Alors, donc, moi, je vous propose un documentaire.
Oui, moi aussi. Alors, ça s'appelle comment?
Ça s'appelle.
De Philippe Béziat, peut-être.
Non, pas du tout. Ah. C'est un documentaire de Philippe Béziat qui s'appelle Nous l'Orchestre.
Ah, oui,
alors,
bien sûr.
Qui répond à plusieurs questions. Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose? Quel rôle joue vraiment le chef d'orchestre? C'est le problématique de l'individu dans le collectif et qui ne peut réussir ce collectif parce que l'individu s'y reconnaît et vice-versa. Voilà, et c'est une première parce que c'est la première fois qu'on a... On est pénétré dans les entrailles de l'orchestre philharmonique, l'orchestre de Paris,
oui.
Qui compte quand même 120 musiciens. Et voilà, c'est une descente intéressante dans les pratiques musicales et qui ne peut se départir d'un respect de l'être humain aussi à l'intérieur.
Ouais, c'est une véritable immersion,
voilà,
quoi, vraiment.
Tout à fait.
Et sur les extraits que j'ai vus, on voit vraiment les musiciens parler de leur rapport à l'autre,
voilà.
De leur rapport à la temporalité, de leur rapport à la précision.
À l'instrument aussi.
Et à l'être humain, bien sûr.
Ils non, sont à l'instrument, pas... j'ai dit.
Ouais, à l'être humain.
Non, à l'instrument.
Bien, eh bien, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Ok, ça fait plaisir.
Et voilà, Cinéscence est déjà fini. Enfin, jusqu'à ce que tout recommence.
Ah bah bien sûr.
Je vous laisse éteindre votre radio et reprendre le chemin des salles obscures en espérant qu'elles vous donnent des émotions fortes, quelles qu'elles soient. Bien mais sûr. Avant ça, n'hésitez pas à nous réécouter en podcast ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
Fait les mêmes erreurs.
Eh bien oui, pour le direct, on se retrouve dès la semaine prochaine, mais on est en direct aussi. Nous irons faire un tour en 2018.
Oui. Et ce sera à 14h sur O2 Radio, 4h11 pour être là, bien entendu.
On se quitte, Jean-Jacques, avec la perle musicale du jour, qui est...
Alors, on va retourner en 66.
Bonne année. Oula.
Jean-Yann chantait « Si tu t'en irais », entrecoupant sa chanson pour expliquer comment gagner facilement de l'argent grâce à la SACEM en chantant des chansons à la télévision. Voilà, c'est une chanson accompagnée par Jean-Yann lui-même à l'harmonium.
D'accord.
Préparez vos oreilles.
Préparez vos oreilles. Eh bien, allez... À mardi prochain,
oui.
Et en attendant,
bon vent à tous.
On sait toujours pas qui est le grognon et le grinch.
Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois. fois que t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, il y aurait quelque chose d'usé au fond de moi. 6 francs, vous voyez, j'ai à peine chanté pendant 30, 35 secondes, 40 secondes, j'ai déjà gagné 6 francs. Vous voyez que c'est pas difficile. Ah, faut le faire, mais enfin, c'est pas dur. Vous me direz, évidemment, comparé au salaire que touchent les gens qui exercent des professions libérales, avocats, médecins, chirurgiens, 6 francs de la minute, ça fait pas beaucoup de l'heure. Mais il faut pas oublier que cette chanson peut être chantée dans 20 000, 30 000 ou 40 000 établissements tous les soirs, et 40 000 fois 6 francs, ça commence à faire de l'oseille d'ailleurs. Il n'y a pas une minute à perdre. Si tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur, si tu t'en irais, laissant nos hommes désunis, si tu tenterais de m'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. 8 francs. Car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume, hecte mes yeux de joie, mes larmes, loin des alarmes, coulant d'un charme voluptueux. N'importe quoi, je crois bien que je mourirais si un jour tu t'en irais.